Bonjour, je suis enseignant-chercheur au laboratoire éducation, culture et politique depuis quelques mois. Je suis agrégé de sciences et maître conférence depuis 2011. Je viens donc d'un univers qui, a priori, est différent un peu du vôtre, dans la mesure où, en général, quand je faisais des conférences jusqu'à il y a quelques mois, c'était pour des parterres de profs de sciences, de physique, de biologie, et ces questions d'éducation aux valeurs, à la laïcité, étaient un peu sous la table, disons, puisqu'on est extrêmement centré, vous le savez probablement, dans l'enseignement des sciences, sur les savoirs, notamment les savoirs stabilisés, ce que les enfants devraient savoir, que ce soit en collège et en lycée. Alors, ce qui m'a valu d'ailleurs un certain nombre de réflexions, notamment en Provence, là, il y a quelques mois, a eu lieu un colloque sur l'après-Charlie, dont vous avez peut-être entendu parler, au mois de mai 2015, avec Françoise Lorcery, si je me souviens bien. Et donc j'ai retrouvé des collègues des sciences qui m'ont dit, bah tiens, toi qui es géologue de formation, je vois que la géologie mène à tout. Donc je sais pas trop comment le prendre sur le moment, mais voilà, il y a un lien à tisser certainement entre l'éducation aux sciences et l'éducation à la laïcité. Et je pense ma collègue Corinne Fortin, qui a le même parcours que moi, sur la question de l'enseignement de l'évolution et du créationnisme, est aussi amenée à se poser cette question de quelle est la place des sciences, quelle est la contribution de l'enseignement des sciences à la laïcité. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter les résultats d'une petite enquête que nous avions conduite justement après Charlie, avec des étudiants de licence sciences de l'éducation, autour de la question, si vous aviez été en poste en tant qu'enseignant à l'époque du 8 janvier, et plus particulièrement la semaine du 8 au 15 janvier, qu'auriez-vous fait, qu'auriez-vous dit à vos élèves, à vos enfants, à votre public, dans ce contexte très particulier, notamment avec cette injonction qui date du 7 janvier, qui était de réaliser une minute de silence à l'école. Comment vous auriez géré ça? Donc c'est des résultats de positionnement donc d'étudiants qui n'ont pas de pratique de terrain, mais qui assez intéressante pour voir déjà l'interprétation qu'ils donnent à la mission de l'école et à leur futur métier. Alors vous retrouverez l'ensemble de ces analyses dans la revue Diversité, le numéro de février-mars 2016, qui devrait sortir dans quelques semaines, dans lequel j'ai publié donc un article qui s'appelle « Éduquer aux valeurs, une utopie politique controversée ». Alors je vais, dans mon propos, aborder quatre points. Je vous donne déjà finalement la conclusion, comme ça vous... On pourra peut-être écourter le travail de présentation, mais je vous montrerai d'abord que cette question de l'éducation aux valeurs est une question qui traverse l'histoire du XXe siècle, notamment à chaque conflit social se pose la question de comment l'école se positionne face à ces conflits de générations, de sociétés internationaux, et quelle est la place et la responsabilité que peut prendre l'école dans le maintien de la paix dans le monde, donc dans la pacification. Donc je vous montrerai un certain nombre de positionnements, notamment du côté de l'UNESCO, puisque d'ailleurs c'est cette année les 70 ans de l'UNESCO, cette institution avait comme mission initiale de promouvoir la paix dans le monde grâce à l'éducation, à la culture et aux sciences également, mais aussi à l'éducation. De ce parcours historique au XXe siècle et de ces injonctions d'éducation aux valeurs pour maintenir la paix, il apparaît que comme une évidence que l'école peut contribuer à apprendre à vivre ensemble et donc à maintenir la paix dans le monde, et notamment dans tous les pays qui s'engageraient et qui signeraient ces programmes d'éducation aux valeurs. Alors c'est ce que j'ai appelé ce qui apparaît une évidence, une injonction évidente. Et pourtant, sur le terrain, ce sera mon deuxième point, on se rend compte que ça ne fait pas l'unanimité. notamment lorsqu'on regarde les différentes positions que prennent les acteurs de l'école, et de l'école française notamment. Des controverses apparaissent sur la place de l'école et sa responsabilité en tant que maintien de la paix sociale. Alors, cette philosophie, cette utopie de l'éducation aux valeurs pour maintenir la paix, on va le voir avec les étudiants de licence, mais aussi avec quelques collégiens que nous avons suivis au cours du mois de février 2015. Là aussi, ils y adhèrent plus ou moins. En tout cas, pour eux, ce n'est pas une utopie, mais dans leur discours et dans leur positionnement apparaissent une diversité d'utopies. C'est-à-dire qu'ils interprètent l'éducation aux valeurs de manière complètement différente, à travers des objectifs pédagogiques, des outils, des ressources qui sont extrêmement variés. Et donc, ce sera ma conclusion, pour répondre à cette question, est-ce qu'éduquer aux valeurs dans un contexte qui est celui des attentats, et donc une forme de guerre, est-ce que c'est une utopie? Alors, les acteurs répondent que non, mais dans les solutions qu'ils proposent, affichent plusieurs formes d'utopie, et ce qui nous amène à penser qu'il y a là un terrain de controverse à discuter sur la place que l'on donne à l'école en termes d'éducation aux valeurs. Alors, je vais donc commencer par ce rapide tour historique. La revue Sciences Humaines vient de publier une frise historique assez intéressante sur laquelle elle place, janvier 2016, le numéro spécial anniversaire qui s'appelle les 25 ans de la revue Sciences Humaines. Bon, les profs d'histoire, je pense, y trouveront largement leur compte. Mais dans cette frise, on voit régulièrement un certain nombre d'événements qui sont mis... sur lesquels on met l'accent, et notamment des attentats, des conflits. Et on peut mettre en corrélation cette frise du temps. Vous voyez que le dernier en date, bien sûr, c'est les attentats ici de Charlie, qui sont mis en 2015, l'année 2015. Tous ces différents événements conflictuels ont souvent été corrélés avec une interrogation à l'échelle internationale sur quelle est la responsabilité de l'école et de l'éducation face à l'émergence de ces conflits et comment on peut lutter grâce à l'école contre ce genre de conflit. Alors, les 70 ans de l'UNESCO, c'est dans quelques mois. Et la même année que les attentats de Paris, l'UNESCO a publié un rapport qui me semble assez intéressant puisque il s'appelle Repenser l'éducation, et toute la philosophie de ce rapport, c'est de dire que nous ne pourrons pas continuer à vivre ensemble dans nos sociétés multiculturelles et puis à l'échelle internationale si nous ne développons pas des programmes d'éducation qui permettent de se décentrer par rapport à la crispation qu'on a sur les savoirs et à rentrer de manière forte, par des pratiques innovantes, sur la question de la transmission des valeurs et de l'éducation aux valeurs. Donc il y a un chapitre très intéressant que je vous conseille de regarder, un petit rapport qui fait une cinquantaine de pages. Le paragraphe qui s'appelle « Pour une approche humaniste de l'éducation » est particulièrement intéressant. À la page 39, vous y verrez les valeurs qui sont défendues, donc pour le maintien de la paix et pour une éducation qui, au XXIe siècle, aurait comme mission principale d'éduquer aux valeurs, en tout cas si l'on veut maintenir paix et développement durable. Alors, ce rapport aussi donne quatre missions à l'école. Ce sont des missions d'ailleurs que l'on retrouvait déjà dans le rapport Delors de l'UNESCO en 1996, en réaffirmant le fait que l'école doit certes apprendre à connaître, donc avoir un rapport au savoir qui est important, mais aussi elle doit apprendre à faire, elle doit apprendre à être, et donc elle doit apprendre à vivre ensemble. Et c'est ce quatrième point qui, certainement, est le plus en débat dans notre institution et du côté du terrain avec des acteurs qui discutent de la manière que pourrait prendre cette fonction, cette mission d'apprendre à vivre ensemble. Alors, si je reviens sur cette injonction du 7 janvier par la ministre de l'Éducation nationale, donc il s'agissait d'une injonction un peu paradoxale, puisqu'il s'agissait à la fois de faire une minute de silence, donc de se taire, mais en même temps de débattre. Donc, on peut débattre intérieurement, mais en tout cas, c'est probablement une des grandes difficultés qu'ont rencontré les enseignants et que les enfants n'ont pas forcément d'ailleurs bien compris, cette nécessité de se taire, imposer, et puis en même temps de débattre de ce qui s'est passé pour essayer de répondre à une question fondamentale en contexte d'attentat, qui est la question du pourquoi. Alors, avec nos étudiants de licence, en janvier, nous étions engagés dans un programme d'éducation aux médias, et quand sont arrivés ces événements, on s'est dit que ce serait une occasion, une opportunité intéressante d'essayer de voir ce qu'ont dit les médias, la période du 7 au 15 janvier, sur le positionnement de l'école face à ces attentats et face à la nécessité d'éduquer aux valeurs. Donc nous avons un certain nombre d'outils à notre disposition qui nous permettent d'interroger des corpus de presse pour essayer de catégoriser les discours et de voir qu'est-ce qui circule comme représentation sociale. Je ne dis pas que les discours médiatiques sont le reflet de la réalité sociale, mais en tout cas, ils contribuent à une problématisation, et ici une problématisation de la laïcité, de l'éducation aux valeurs et de la responsabilité de l'école. Alors, un des outils que nous utilisons, c'est Europress. Bon, ceux qui font peut-être un peu de recherche, ou d'ailleurs en veille scientifique, Annie, vous devez certainement l'utiliser, comme Factiva. Donc c'est des outils qui permettent par mots-clés d'interroger sur une période donnée et de récupérer tous les discours qui parlent d'eux. Donc nous avions cherché avec nos étudiants, ils étaient une centaine, à constituer un corpus de presse généraliste pour essayer de voir ce qui était dit sur la minute de silence, les professeurs, les élèves, Charlie Hebdo, voilà les mots-clés qui nous ont permis d'extraire une trentaine d'articles dans la presse quotidienne nationale et d'essayer de les catégoriser sur cette période, donc sur cette fenêtre, ce que l'on appelle nous un moment discursif en recherche, c'est-à-dire un moment dans lequel on a une production de discours qui mettent en jeu des acteurs, qui mettent en jeu aussi des logiques qui sont parfois en contradiction. Alors, ce que montrent les premiers corpus de presse, les premiers articles qui sortent sur cette affaire, c'est que, et qui parlent d'école et de professeurs, c'est que la minute de silence ne se serait pas si bien passée que ça, même si rapidement le gouvernement va relativiser en disant qu'il ne s'agit que de 74 perturbations sur plus de 64 000 établissements, plus de 10 millions d'élèves, donc bon, un épiphénomène. Là aussi de contestation par rapport à cette minute de silence. Les médias vont aussi s'attacher très rapidement à partir du 12 janvier à analyser la réaction des élèves. Donc cette perturbation dont je viens de vous parler, mais aussi des phénomènes de contestation assez fortes disant que ce qui est arrivé est de la responsabilité des victimes, c'est-à-dire avec des phrases dans certains collèges, notamment ici au nord de Paris, « ils l'ont cherché ». Rapidement aussi, les médias vont s'attacher à des discours complotistes qui circuleront d'ailleurs dès le 10 janvier 2015, sur cette fameuse théorie du complot. Alors il y en a plusieurs qui ont circulé, soit essentiellement dans les médias internet pour le coup, notamment sur cette histoire de rétroviseur qui était, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, voilà, il n'y avait pas la même couleur, ce qui a été ensuite expliqué par le fait que la voiture était orientée différemment par rapport au soleil, et donc ça pouvait pour le coup s'expliquer scientifiquement. On aurait pu faire par exemple un cours sur l'ombre et la lumière ou le reflet, comme on le fait en classe de primaire. D'autres théories ont encore un peu plus farfelues, notamment sur le tracé de la marche républicaine du dimanche, qui a la même forme que le tracé d'Israël, et donc le complot de Netanyahou. Voilà, bon, ça circulait dans les Facebook. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants sont exposés à ce genre de discours. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein, ces théories complotistes. Hein, en 2011, à la suite des attentats, on a eu en 2001, pardon, on a eu ce genre de discours que c'était un complot monté par le gouvernement américain pour pouvoir justifier la guerre au Moyen-Orient. On a aussi des dérives idéologiques, hein, notamment si je reviens sur l'exemple du 11 septembre, avec un certain nombre de courants de pensée, notamment ici des fondamentalistes turcs, qui disent que tous ces phénomènes d'attentats sont liés au fait que dans nos sociétés, nous sommes plutôt darwinistes, et que donc c'est la loi du plus fort qui fait que on se bat entre nous, et que ça explique un certain nombre de violences, notamment avec cette phrase dite par Harun Yahya, qui est dans un atlas de la création qui a circulé dans les écoles, certains établissements scolaires l'ont reçu, qui visait à montrer que la théorie de l'évolution était une théorie antisociale, voire terroriste, puisque c'est la seule théorie qui valorise et encourage le conflit. Alors, rapidement aussi, à partir du 13 janvier, s'est posée la question de les enseignants semblent désarmés face à la réaction des élèves, constatée et relatée dans un certain nombre de médias, après les événements, notamment à la suite de la demande de minute de silence. Et donc, comment faire? Est-ce qu'il faut, et très vite est arrivée la question du fait religieux, est-ce qu'il faut aborder le fait religieux à l'école? Sous-entendu, si nous l'avions fait avant, peut-être que nous aurions évité ce genre de malaise ou de perturbation de la part des enfants. Alors, certains profs ont pris la parole aussi dans Rue 89, notamment ce professeur d'histoire-géographie qui s'appelle Bernard Girard, qui dit que la minute de silence, c'était pas une contestation complètement inconsciente d'adolescents en crise, mais que c'était peut-être probablement un appel à comprendre et peut-être à éduquer autrement. Donc ce discours qui consiste à dire, bien, éduquer aux valeurs, c'est aussi discuter, dialoguer, plutôt que de, enfin, faire la minute de silence pour en faire partie, mais aussi cet appel au dialogue avec les enfants était soutenu par un certain nombre d'enseignants. Les choses se sont compliquées le 15 janvier avec des suspensions de deux enseignants. Un à Mulhouse, dans l'académie de Mulhouse, il sera le 22 janvier réintégré, puisqu'il avait choisi comme stratégie pédagogique, au lendemain des attentats, d'arriver le matin avec une panoplie. Alors, il avait la collection des Charlie Hebdo, d'après ce que j'ai compris, et donc il les a affichés, il a sélectionné ceux qui critiquaient le prophète, et il les a mis sous les yeux des enfants, en leur disant, voilà, c'est la liberté d'expression, c'est ça. Alors, certains enfants ont réagi violemment. Et il leur aurait répondu en leur disant, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à sortir vos kalachnikovs. Donc les parents ont été informés, donc ça fait beaucoup de bruit dans l'académie de Mulhouse. Le recteur a été plus que mal à l'aise par rapport à cette affaire. Les syndicats sont montés au créneau. Et finalement, il a été réintégré une semaine plus tard, en disant que bon, il avait été probablement maladroit, mais qu'il avait réagi sous le coup de l'émotion, et que probablement en contexte d'attentat, face à ce genre d'actualité, il y a cette dimension émotionnelle qui est du côté des élèves, mais qui est également du côté des enseignants, qu'il faut intégrer aussi dans les prises de position. Bon, d'autres enseignants aussi, ici dans 20 minutes du 16 janvier, vous voyez une enseignante suspendue qui, elle, avait pour le coup soutenu la théorie du complot sur les attentats, en disant que c'était une affaire d'État montée de toutes pièces pour pouvoir, là aussi, s'engager en Syrie avec le soutien de la population. Alors, aussi, face à ces première critique qui ont commencé à monter sur le positionnement des enseignants, la diversité des postures, il y a deux grandes tendances qui se sont dessinées, en tout cas dans la presse. La première tendance, c'est des groupes d'enseignants qui ont pris à corps la responsabilité de ce qui s'est passé, en disant comment avons-nous pu avons-nous pu laisser nos élèves devenir des assassins? C'est-à-dire que c'est en partie l'école qui est responsable de ce qui s'est passé, puisque c'est nos enfants qui sont passés par là. Et donc, une sorte de mea culpa dans cet article du Monde du 13 janvier, que je vous conseille de lire, qui est très intéressant. Et de l'autre côté, d'autres groupes d'enseignants qui leur ont répondu en leur disant « mais l'école ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société, notamment en contexte d'attentats. On ne peut pas en plus nous rajouter cette responsabilité-là, de dire c'est à cause de nous, de nos manières d'enseigner, d'éduquer, que ce genre de conflits ou de dérives apparaissent. » Alors les étudiants ont construit avec nous ces analyses, hein, et ils ont ramené des corpus régulièrement avec les outils dont je vous ai parlé. Donc ils se sont rendu compte qu'il y avait donc une diversité de postures éducatives face à ces attentats, et que cette exploration des représentations médiatiques a montré que sur le terrain, semble montrer en tout cas que sur le terrain, les choses ne sont pas si simples que ça à interpréter, notamment dans la relation pédagogique, dans la position des enseignants par rapport aux élèves, par rapport aux parents, et que donc c'est un monde d'une complexité extrêmement difficile à saisir, et que voilà, probablement que se poser la question de « et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là » serait intéressante, en tout cas c'est celle que nous leur avons soumise en tant qu'équipe pédagogique, pour essayer de voir un peu, ayant eu toute cette diversité-là, eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Alors, ce qu'on se rend compte, donc la consigne donnée, c'était vous êtes une centaine, donc il y a 40 groupes qui se sont constitués d'étudiants, et donc dites-nous comment vous auriez réagi, vous, à cette minute de silence, et qu'est-ce que vous auriez proposé comme activité, comme pédagogie, pour traiter cet événement social. Alors, on se rend compte que les activités qui sont proposées par les jeunes étudiants, donc futurs éducateurs, hein, ils se destinent au métier de l'éducation scolaire, mais certains se destinent aussi au métier du travail social dans les associations, les centres sociaux notamment. Ils proposent des activités, une action pédagogique qui va de la demi-journée, donc ils se centrent sur la consigne donnée par le ministère, c'est-à-dire moi je vais parler de ça juste le 7 janvier, puis après je reprends mon travail. Et puis d'autres proposent de travailler sur la semaine ou de lancer des projets à plus long terme. Donc la question de la temporalité, pas divise, mais en tout cas fait partie de la diversité des stratégies pédagogiques proposées, que proposeraient ces enseignants. Ensuite, il est intéressant de noter que beaucoup proposent de faire venir des intervenants extérieurs dans l'établissement dans lequel ils envisageraient d'étudier, et donc de ne pas traiter seuls cette question, probablement en cherchant, alors ils argumentent en disant on a besoin de montrer aux enfants que socialement nous sommes plusieurs à défendre les valeurs de la République, et que donc il est bien de montrer que il n'y a pas que les enseignants qui sont engagés sur cette question-là, et donc un certain nombre de professionnels sont convoqués ou seraient convoqués, hein, puisque là c'est de l'ordre du déclaratif ou de l'espérer. Alors notamment, bon, vous le verrez dans l'article, mais on propose bien sûr de faire venir des psychologues, mais on propose aussi de faire venir des pédopsychiatres, des caricaturistes, des journalistes. Et on a même un policier, pour les choses un peu originales, et puis même un groupe d'étudiants qui propose de faire venir Lilian Thuram, puisqu'il est responsable d'une fondation contre le racisme, donc voilà, et chercher aussi des voies médiatiques extérieures pour soutenir le projet éducatif. Il est intéressant aussi de noter que les enseignants reste quand même centré sur la mission de l'école, qui est de transmettre des savoirs. C'est-à-dire, beaucoup instrumentalisent ce moment pour se dire, ça va être l'occasion aux enfants de leur apprendre des mots de français, de vocabulaire. Alors la liste est toujours la même, caricature, liberté d'expression, religion. Et donc ils font de la maîtrise de la langue française également un des objectifs éducatifs. Donc vous voyez le fil qui est déroulé pour se rattacher au programme et justifier une intervention de l'école sur un tel sujet. Dans les scénarios, il y a ce petit schéma là qui vous montre comment, en gros, il y a toujours un même squelette. Il y a des moments, un moment A dans lequel on propose aux enfants de parler, de découvrir, de questionner, voilà, le moment A. Ensuite, on fait la minute de silence, ou pas. Certains groupes d'étudiants disent « je n'obligerai pas les enfants à faire la minute de silence, ce sera leur liberté ». D'autres, sur le moment B, sont intransigeants. Ils feront la minute de silence, et sinon ils seront punis ou je convoquerai les parents. Donc il peut y avoir des positionnements très variés sur cette question-là. Et puis, en point C, on propose aux enfants de s'engager dans une action, agir pour la défense des valeurs de la République, avec la production d'expositions, d'affiches, de caricatures, bon, toute une panoplie de productions proposées aux élèves. Et me paraît aussi intéressant le moment D, qui est proposé par certains groupes d'étudiants, je crois une dizaine sur les 40, qui propose d'inviter les parents, en fin de journée, à venir discuter. Et donc, qui intègre l'éducation, la place des parents dans cette éducation aux valeurs, dans le contexte scolaire. Alors, avec peu de vigilance vis-à-vis des convictions personnelles, puisqu'ils n'ont pas d'expérience. D'ailleurs, peu posent cette question, mais alors s'ils ne sont pas de la même conviction que nous, s'ils ne sont pas convaincus que la laïcité est quand même un pacte social au fondement de notre nation, comment on gère ça? En tout cas, il y a, c'est assez intéressant à voir, une volonté de rompre avec cette laïcité historique qui dirait il y a d'un côté l'éducation familiale et de l'autre côté l'éducation scolaire. Il y a des tentatives de discuter et de construire ce que l'on appelle actuellement la coéducation, hein, c'est-à-dire d'ouvrir la porte aux parents et de leur dire vous avez aussi une responsabilité comme la nôtre, essayons de co-construire ensemble un encadrement pédagogique qui fasse du sens. Ça, les nouvelles générations sont a priori, alors bon, je sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, ils n'y sont pas complètement opposés à ce maintien d'un espace privé en dehors de l'espace public, ou en tout cas, qui n'aurait pas à dialoguer l'un avec l'autre. Dernière petite... j'ai encore un peu de temps. Deux minutes, d'accord. Alors, sur les collégiens, maintenant, l'enquête que nous avons menée, donc en parallèle, hein, pendant que une centaine d'étudiants ont travaillé sur ce corpus médiatique et sur leur positionnement, essayer d'imaginer ce qu'ils pourraient faire, d'autres ont décidé d'aller sur le terrain, dans un collège. Un collège à une vingtaine de kilomètres de Lyon, dans une petite commune de 15 000 habitants. Dans la région Isère, et ils ont donc décidé d'essayer de voir sur le terrain comment ça s'était concrètement passé. Ils ont été plutôt mal reçus, notamment par l'équipe pédagogique qui a refusé de participer à l'enquête. Bon, ça c'est on a discuté, sur les raisons de ce refus. Par contre, les élèves, eux, ont pu, avec le soutien du chef d'établissement, participer à l'enquête. Et sur 120 élèves interrogés, dans 4 classes, de la 6e à la 3e, 70 élèves ont répondu. Et donc, nous avons un corpus assez intéressant sur le positionnement des élèves face à la minute de silence et face à cette question des attentats. Et du traitement pédagogique de ces moments à l'école. Alors, je trouve que le résultat est assez intéressant puisqu'on constate que, alors c'était au mois de février, hein, donc février 2015, il y a un an, que les élèves ont manifesté dans leur réponse un phénomène de saturation par rapport à l'événement. Trop, il y en a marre de parler de ça, avec des affirmations du genre « je n'ai plus envie d'en parler, nous en avons trop parlé », certains disent « c'est du passé », d'autres rajoutent « c'est ça la vie », un certain nombre de fatalismes, d'autres « ce ne sont pas mes affaires », c'est des histoires d'adultes, donc ne se sentent pas forcément impliqués dans ce genre de discours, et d'autres vont même jusqu'à dire mais en parler à l'école c'est donner de l'importance aux djihadistes et donc l'école ferait mieux de rester sur son territoire et de s'occuper de ses affaires plutôt que de faire de la publicité à des groupes propagandistes. Alors Voilà pour l'essentiel de ce que nous dit l'enquête. Hein. Elle devra être complétée dans les semaines qui viennent auprès d'entretiens des étudiants pour essayer de savoir quand même sur ce schéma là de positionnement, concrètement pourquoi ils ont choisi ça, notamment sur le moment D, et qu'est-ce qu'ils projettent derrière cette implication des parents dans la coéducation, puisque c'est un programme qui est politiquement fort actuellement sur cette histoire de coéducation. Alors, en conclusion. Il est évident que, en contexte d'attentat, cette question du pourquoi, elle est posée par les médias, mais elle est certainement aussi posée par les enfants, et que donc les adultes référents dans cette institution qui est la nôtre peuvent ou non choisir de ne pas répondre à cette question du pourquoi. En tout cas, elle se pose, elle est posée socialement, et une des premières controverses, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on la gère. Et ça me ramène à une controverse un peu plus générale qui est signalée dans un numéro spécial des cahiers pédagogiques que je vous conseille de regarder, qui s'appelle qui s'appelle L'actualité du monde et la classe, qui est de juin 2005, et dans laquelle Michel Tozzi signalait que, en contexte d'attentat, mais aussi chaque fois finalement qu'il y a une actualité scientifique ou environnementale, il prend l'exemple du tsunami par exemple en 2004, hein, ce numéro était écrit dans ce contexte-là, qui a suscité aussi beaucoup d'émotions dans les établissements, que fait l'enseignant face à cette positionnement-là, et il dessine deux grandes familles d'enseignants. Alors, certains qui considèrent que l'enseignement doit être fondamentalement inactuel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de place pour l'actualité au sein de l'école. C'est une institution qui travaille justement en prenant du recul, en laissant dans une temporalité qui n'est pas celle des médias, donc elle n'a pas à prendre en charge ce genre de situation ou de questions éducatives. Donc ça, c'est une tendance. Il appelle ça le courant républicain. Et puis un autre courant qui serait... et qui appelle des pratiques pédagogiques certainement à penser, à inventer, qui existent déjà en sciences économiques et sociales. L'actualité, c'est quand même une pratique, le traitement de l'actualité, en histoire-géographie aussi. En SVT, on ne sait pas faire encore, mais ça viendra. Le traitement des questions d'actualité est, pour d'autres courants pédagogiques et d'autres disciplines scolaires, quelque chose qui ne pose pas problème, et la gestion de la temporalité, de la diversité des discours est prise en charge assez sereinement, avec la gestion de l'émotion aussi dans ce genre de situation. Alors, il est sûr que l'actualité, moi je me suis centré sur janvier-février 2015, mais ce qui s'est passé en novembre aussi relance encore la même question, avec le magazine d'art et d'islam là, de Daesh, publié le 30 novembre, qui s'attaque directement à la charte de la laïcité, mais également à la théorie de l'évolution, à l'enseignement de la reproduction, à la question qui est traitée dans le secondaire de choisir ou non d'avoir un enfant, toutes ces thématiques qui font partie de notre corpus en sciences. Daesh ici les critique fortement en disant que nous sommes dans un pays de la mécréance et que donc laïcité et démocratie sont des religions, des fausses religions, et des religions de la mécréance. Alors là aussi, l'État s'est positionné. Alors un peu plus tard, hein, le 4 décembre, notamment avec les syndicats aussi, syndicats étudiants et enseignants, qui ont dit que face à cette propagande, l'école a sa place à jouer. Donc vous voyez que c'est plutôt la tendance à soutenir, en tout cas d'un point de vue syndical, le fait qu'il faut traiter ces questions d'actualité à l'école, avec voilà, l'enseignement de la laïcité, le respect de l'esprit scientifique, de la tolérance, avec des pratiques qui sont celles de l'explication, de l'éducation et du partage. Donc, un positionnement public qui, en tout cas d'un certain nombre d'acteurs, qui va avec l'idée que éduquer aux valeurs, ce serait possible, ce serait même au fondement de notre mission éducative, et que, quel que soit le contexte, et notamment celui actuel, on ne peut pas faire un refus de traitement. Reste bien entendu la question de quelle pratique mettre en œuvre. Et je vous signale un autre numéro aussi sur toutes ces questions. Alors attentats, mais il y aurait aussi racisme, sexisme, homophobie, politique, religion, mort, colonisation, Darwin, tout ce que ma collègue a appelé tout à l'heure les sujets tabous. Les cahiers pédagogiques en ont fait un très beau numéro aussi en 2009, dans lequel on a des témoignages d'enseignants sur comment eux traitent ce genre de questions. Et pour celles sur lesquelles je suis familier, celle du darwinisme, c'est particulièrement intéressant à analyser. Voilà, j'espère que ça lance des questions à débattre et merci de votre attention.